Podcast de l'Avent, une lecture balsacienne pour patienter jusqu'à Noël. Le bal de Sceaux, par Honoré de Balzac, Paris, décembre 1829. À Henri de Balzac, son frère Honoré. Extrait 21 sur 24.
Il regarda dans le salon, mais sa nièce avait disparu comme un feu Saint-Hélène, pour se servir de son expression habituelle. « Eh bien, mon oncle, reprit Monsieur de Fontaine, comment avez-vous pu nous cacher tout ce que vous saviez sur ce jeune homme ? Vous avez cependant dû vous apercevoir de nos inquiétudes. Monsieur de Longueville est-il de bonne famille ?
Je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, s'écria le comte de Kergarouët. Me fiant au tact de cette petite folle, je lui ai amené son Saint-Preux par un moyen à moi connu. Je sais que ce garçon tire le pistolet admirablement, chasse très bien, joue merveilleusement au billard, aux échecs et à tric-trac. Il fait des armes et monte à cheval comme feu le chevalier de Saint-Georges. Il a une érudition corsée relativement à nos vignobles. Il calcule barème, dessine, danse et chante bien. Et diantre, qu'avez-vous donc, vous autres, si ce n'est pas là un gentilhomme parfait ? Montrez-moi un bourgeois qui sache tout cela. Trouvez-moi un homme qui vive aussi noblement que lui. Fait-il quelque chose ? Compromet-il sa dignité à aller dans des bureaux, à se courber devant des parvenus que vous appelez des directeurs généraux ? Il marche droit, c'est un homme. Mais au surplus, je viens de retrouver dans la poche de mon gilet la carte qu'il m'a donnée quand il croyait que je voulais lui couper la gorge, pauvre innocent. La jeunesse d'aujourd'hui n'est guère rusée. Tenez, voici.
Rue du Sentier numéro 5, dit Monsieur de Fontaine en cherchant à se rappeler parmi tous les renseignements qu'il avait obtenus celui qui pouvait concerner le jeune inconnu. Que diable signifie cela ? Messieurs Palma, Verbrust et compagnie, dont le principal commerce est celui des mousselines, calicots et toiles peintes en gros, demeurent là. Bon, j'y suis, Longueville, le député, a un intérêt dans leur maison. Oui, mais je ne connais à Longueville qu'un fils de 32 ans, qui ne ressemble pas du tout au nôtre, et auquel il donne 50 000 livres de rente en mariage afin de lui faire épouser la fille d'un ministre. Ah, il a envie d'être fait père tout comme un autre. Jamais je ne lui ai entendu parler de ce Maximilien. A-t-il une fille ? Qu'est-ce que c'est que Clara ? Au surplus, permis à plus d'un intrigant de s'appeler Longueville. Mais la maison Palma, Verbrust et compagnie n'est-elle pas à moitié ruinée par une spéculation au Mexique ou aux Indes ? J'éclaircirai tout cela.
Tu parles tout seul comme si tu étais sur un théâtre et tu parais me compter pour zéro, dit tout à coup le vieux marin. Tu ne sais donc pas que s'il est gentilhomme, j'ai plus d'un sac dans mes écoutilles pour parler à son défaut de fortune.
Quant à cela, s'il est le fils de Longueville, il n'a besoin de rien. Mais, dit Monsieur de Fontaine en agitant la tête de droite à gauche. Son père n'a même pas acheté de savonnette à Vilain. Avant la Révolution, il était procureur. Et le 2 qu'il a pris depuis la Restauration lui appartient tout autant que la moitié de sa fortune.
Bah, heureux ceux dont les pères ont été pendus !
S'écria gaiement le marin. 3 ou 4 jours après cette mémorable journée, et dans une de ces belles matinées du mois de novembre qui font voir aux Parisiens leur boulevard nettoyé par le froid piquant d'une première gelée, Mademoiselle de Fontaine, parée d'une fourrure nouvelle qu'elle voulait mettre à la mode, était sortie avec 2 de ses belles-sœurs sur lesquelles elle avait jadis décoché le plus d'épigrammes. Ces 3 femmes étaient bien moins invitées à la promenade parisienne par l'envie d'essayer une voiture très élégante et des robes qui devaient donner le ton au mode de l'hiver, que par le désir de voir une pèlerine qu'une de leurs amies avait remarquée dans un riche magasin de lingerie situé au coin de la rue de la Paix. Quand les 3 dames furent entrées dans la boutique, Madame la baronne de Fontaine tira Émilie par la manche et lui montra Maximilien Longueville assis dans le comptoir et occupé à rendre avec une grâce mercantile la monnaie d'une pièce d'or à la lingère avec laquelle il semblait en conférence. Le bel inconnu tenait à la main quelque échantillon qui ne laissait aucun doute sur son honorable profession. Sans qu'on pût s'en apercevoir, Émilie fut saisie d'un frisson glacial. Cependant, grâce au savoir-vivre de la bonne compagnie, elle dissimula parfaitement la rage qu'elle avait dans le cœur et répondit à sa sœur un « Je le savais », dont la richesse d'intonation et l'accent inimitable eussent fait envie à la plus célèbre actrice de ce temps. Elle s'avança vers le comptoir. Longueville leva la tête, mit les échantillons dans sa poche avec un sang-froid désespérant, salua Mademoiselle de Fontaine et s'approcha d'elle en lui jetant un regard pénétrant. Mademoiselle, dit-il à la lingère qui le suivit d'un air très inquiet, j'enverrai régler ce compte. Ma maison le veut ainsi. Mais tenez, ajouta-t-il à l'oreille de la jeune femme en lui remettant un billet de 1 000 francs, prenez, ce sera une affaire entre nous. Vous me pardonnerez, j'espère, mademoiselle, dit-il en se retournant vers Émilie, vous aurez la bonté d'excuser la tyrannie qu'exercent les affaires.
Mais il me semble, monsieur, que cela m'est fort indifférent, répondit mademoiselle de Fontaine en le regardant avec une assurance et un air d'insouciance moqueuse qui pouvait faire croire qu'elle le voyait pour la première fois.
Parlez-vous sérieusement ? Demanda Maximilien d'une voix entrecoupée. Émilie lui tourna le dos avec une incroyable impertinence. Ce peu de mots prononcés à voix basse avait échappé à la curiosité des deux belles-sœurs. Quand, après avoir pris la pèlerine, les trois dames furent remontées en voiture, Émilie, qui se trouvait assise sur le devant, ne put s'empêcher d'embrasser par son dernier regard la profondeur de cette odieuse boutique où elle vit Maximilien debout et les bras croisés, dans l'attitude d'un homme supérieur au malheur qui l'atteignait si subitement. Leurs yeux se rencontrèrent et se lancèrent deux regards implacables. Chacun d'eux espéra qu'il blessait cruellement le cœur qu'il aimait. En un moment, tous deux se trouvèrent aussi loin l'un de l'autre que s'ils eussent été l'un à la Chine et l'autre au Groenland. La vanité n'a-t-elle pas un souffle qui dessèche tout ? En proie au plus violent combat qui puisse agiter le cœur d'une jeune fille, Mademoiselle de Fontaine recueillit la plus simple ample moisson de douleur que jamais les préjugés et les petitesses aient semée dans une âme humaine. Son visage frais et velouté naguère était sillonné de tons jaunes, de taches rouges et parfois les teintes blanches de ses joues verdissaient soudain. Dans l'espoir de dérober son trouble à ses sœurs, elle leur montrait en riant ou un passant ou une toile ridicule, mais ce rire était convulsif. Elle se sentait plus vivement blessée de la compassion silencieuse de ses sœurs que des épigrammes par lesquelles elle aurait pu se venger. Elle employa tout son esprit à les entraîner dans une conversation où elle essaya d'exhaler sa colère par des paradoxes insensés, en accablant les négociants des injures les plus piquantes et d'épigrammes de mauvais ton. En rentrant, elle fut saisie d'une fièvre dont le caractère eut d'abord quelque chose de dangereux.